Session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jean-d'Art, le 1er juillet 1991.
Il est évident que les frères et les sœurs qui font pas partie des carrefours, s'ils ont des questions, ils peuvent toujours passer par le Père Marie-Dominique. Puisque c'est lui qui filtre. Vous avez dit. Alors je réponds à quelques questions. Puis hein. C'est trop long, on continuera, mais c'est bon. Je crois qu'ordinairement les questions permettent de creuser, du moins, les questions et la réponse. Permettent de creuser davantage sur ces problèmes qui sont complexes. On est obligé d'aller vite, c'est évident. Vous avez dit que la Grèce était la source de notre culture occidentale. Art, philosophie, c'est sûr. Pas uniquement, c'est pas la seule source. Hein. Comment voir la place de la foi judaïque, de la tradition judaïque, disons, et du christianisme et de la tradition chrétienne. De fait, c'est vrai. C'est très curieux de voir ça. Et c'est très intéressant, on se posera toujours des questions. Et on le verra que dans la lumière de Dieu plus tard. C'est très étonnant de voir comment Dieu a voulu qu'il y ait ces deux grandes traditions. Les pères de l'Église ne se sont pas posés de questions. Ils sont assimilés. Ils sont des grands vivants. Le point de vue de l'intelligence et du cœur aussi, mais l'intelligence. Quand je vois le traité de la philia, de l'amitié, de l'amour d'amitié dans Aristote, quand je vois tout le développement de la volonté chez Épictète, on voit qu'importe l'intelligence, il y a toute une conception de l'homme. Puis alors, l'autre grand courant, c'est le point de vue de la tradition judéo-chrétienne. C'est très vrai que ces deux aspects très différents, mais qui ne s'opposent pas, qui ne s'opposent pas contrairement à des quantités de personnes qui ont une vision dialectique, hegelienne. Hegel dit couramment, n'est-ce pas, que le point de vue juif, la tradition judéo-chrétienne, met en pleine lumière le point de vue de la foi, donc de la soumission. La Grèce met en pleine lumière la liberté, l'autonomie. Il y a quelque chose de juste, mais ce n'est pas vrai de dire qu'il y a une opposition. Quand j'enseignais au Solfoir, une année sur la question, je me souviens très bien, sur la question de l'anthropologie grecque, le père Dreyfus, on était d'accord du reste, on faisait ça ensemble, faisait lui le point de vue judéo-chrétien de ce que c'était que l'homme. Pour enlever ce sophisme constant qui règne, et qui règne encore aujourd'hui, mais qui régnait déjà, qui commençait à naître à ce moment-là. Donc il y a 30 ans, entre l'anthropologie grecque et l'anthropologie sémite, j'ai vu, j'ai lu, dans certaines opuscules traduits pour les gens, pour la catéchèse entre autres, la distinction de l'âme et du corps vient de la Grèce. Il faut la dépasser. Elle vient d'Aristote et de la Grèce. tradition judéo-chrétienne, juive, ça n'existe pas. Mais ça, c'est le sophisme qu'on entend tout le temps. Du moins, moi, j'ai entendu, je ne sais pas combien de fois. Bien, c'est complètement faux. C'est vrai, en partie, il y a toujours une petite vérité. Alors, premièrement, la distinction de l'âme et du corps ne vient pas de la Grèce. Elle vient des traditions religieuses de l'Inde. Alors, dès qu'on dit que ça vient des traditions religieuses de l'Inde, tout le monde se soumet. Je sais pas, mais c'est comme ça. Il y a un passeport universel. Or, ça ne vient de Platon, et tout le monde sait que c'est les liens de Platon et de l'Inde. Et Platon veut montrer que cette distinction de l'âme et du corps, elle est très intelligente. Et donc il l'introduit dans la philosophie grecque. Et Aristote, à sa suite, l'introduit d'une façon encore plus profonde. Et saint Thomas reprend cela dans une tradition chrétienne. Oui, c'est très important, ça, de comprendre que ce n'est pas grec. Ça relève des traditions religieuses. Le mot âme n'est pas philosophique. C'est un mot de tradition religieuse. Que les philosophes, que les grands philosophes ont assumé et introduit. C'est évident qu'aujourd'hui on peut dire que c'est un mot philosophique. Mais avant d'être un mot philosophique, c'est des traditions religieuses. Et alors avec le père Dreyfus, nous avions montré, l'un et l'autre, que l'anthropologie grecque, comme l'anthropologie judéo-chrétienne et surtout juive, n'avait pas du tout d'opposition. Dieu façonna le corps de l'homme. Il y insuffla un souffle de vie, une haleine de vie. C'est dit hein, dans la Genèse. Il n'y a rien de grec là-dedans. On voit bien les deux. Façonna le corps de l'homme et l'haleine de vie dans les narines. C'est merveilleux comme imagination, comme symbolisme. C'est l'âme, souffle de vie. Alors si vous voulez, les mots. Mais une fois que j'ai dit que l'âme n'était pas un mot philosophique, un mot tradition de l'Inde, dites que la tradition de l'Inde n'est pas tout à fait la même que la tradition judéo-chrétienne, ce qui est vrai. Deux traditions, mais elles ne s'opposent pas, elles se complètent merveilleusement. Donc en réalité, si vous creusez un peu, vous voyez bien que la Grèce nous donne une analyse philosophique. Ce qu'il y a de plus grec, c'est Platon, Aristote, Plotin. Et c'est déjà très différent. Et dans cette tradition, on trouve bien la distinction réelle de l'âme et du corps. Et si je suis attentif à la tradition judéo-chrétienne, d'une manière descriptive, très différente, je trouve aussi la distinction du corps et la laine de vie. Un souffle qui vient de Dieu. Et l'âme provient de Dieu. Je crois qu'il y a quand même des coïncidences assez curieuses. Toute tradition religieuse implique toujours l'aspect du corps et l'aspect de l'esprit, de l'âme, haleine de vie, peu importe les expressions, toujours. Ça, nous le verrons à propos des traditions. Donc, vous voyez, mais c'est bien, c'est très vrai qu'il faut se poser la question aujourd'hui. Mais quand vous voyez quelqu'un qui vous dit la distinction de l'âme et du corps provient de la Grèce, levez la main, dites « Ah, pardon, ça vient de la Grèce, ça vient de l'Inde. » Et c'est Platon qui l'a introduit, venant de l'Inde. Et Aristote a suivi Platon. Et là-dessus, je peux vous donner un témoignage qui n'est pas le mien, qu'est d'un excellent historien de la Grèce, Breyer. Et Breyer dit ceci en parlant des stoïciens. Les stoïciens ont rejeté la distinction de l'âme et du corps. Ils sont rentrés dans la grande tradition grecque. Alors, il faut quand même être un peu intelligent, n'est-ce pas ? Pas attribuer à la Grèce tous les péchés du monde, sauf la beauté, hein. Sauf la sculpture, le sourire. La Grèce a inventé le sourire dans la sculpture. C'est déjà quelque chose d'avoir dit que le propre de l'homme, c'est de sourire. Je trouve que c'est assez joyeux quand même. Parce que si vous dites le propre de l'homme, c'est de pleurer. Triste. Non, le propre de l'homme, c'est de sourire. Ça, c'est grec. Très grec. Oui. Alors, il s'agit de comprendre comment la Grèce est un carrefour de la pensée. Il y en a de plus en plus présent de ça. Même le judaïsme a pénétré dans le premier stoïcisme. Le judaïsme, l'Inde, l'Égypte, c'est quand même pas mal. Tout ça bouillonnait en Grèce. À Athènes, tout ça. On pensait beaucoup à Athènes. Tout ça, à Athènes. Puis d'Athènes, c'est parti sur Rome, où le juridisme a mis un ordre un peu différent. Puis c'est reparti au Moyen-Âge, à Paris. Si Paris est Paris, c'est grâce quand même au Moyen-Âge. Et l'influence grecque a gagné là. Alors pas seulement Paris, hein. Londres, Cologne, toute une série, Naples, les grands centres intellectuels. Mais la dispersion, c'est moyen du Moyen-Âge, 13e, 14e siècle. D'autre part, la philosophie est-elle liée culture grecque, peut-elle atteindre universalité? Faisons attention. Distinguons bien philosophie et culture. Deux choses très différentes. Je ne dirai jamais qu'il y a un patrimoine philosophique, moi. Tandis que je dis qu'il y a un patrimoine dans la culture. Vous savez, quand on veut qu'une plante pousse, surtout quand elle est un peu, il faut emporter beaucoup de terre avec. Alors, c'est autre chose, le milieu dans lequel on est élevé, et puis la philosophie, qui est une conquête personnelle. Il y a des idiots qui ont comme grand-père des grands philosophes. Ça ne s'est pas transmis. Bien dommage. Pour les petits-fils. Et pour les grands-pères aussi. Ça arrive. Tandis qu'ils baignent dans la même culture. Ils l'assument différemment, mais la culture, c'est tellement complexe. La culture. Il y a l'art qui joue un rôle très important dans la culture. Il y a les mathématiques qui jouent un jour. Il y a la technique. La philosophie aussi, l'éthique, la manière de vivre, tout ça fait partie de la culture. La philosophie est une recherche beaucoup plus personnelle. Alors que la philosophie cède de la culture, c'est sûr. Et que de fait, notre philosophie occidentale est née en Grèce. C'est un fait. En s'appuyant sur l'Égypte. Et sur les mathématiques. C'est très curieux. et sur l'art égyptien. Mais c'est vrai que la grande période grecque, de l'art grec et de la philosophie grecque, c'est un peu plus tard. C'est Athènes. Il y a là quelque chose de très mystérieux. Puis après, ça s'est propagé. Et la philosophie ne dépend pas de la culture. L'intelligence dépasse la culture. Parce que la culture, il y a un phénomène de tradition. Hein. Tradition familiale. Tradition familiale fait la culture. Tradition artistique. Tradition scientifique. Mathématique. Philosophique aussi. Éthique. Mais c'est surtout l'art et la morale qui fait la culture, avant tout. Donc comprenons bien, la culture est un phénomène communautaire. La philosophie est personnelle. Chacun d'entre nous, nous devons redevenir philosophe. Chacun d'entre nous. Alors, vous allez me dire, quelle différence y a-t-il ? C'est que la philosophie, comme nous allons essayer de le préciser, va découvrir la finalité de l'homme. Ce pourquoi l'homme est fait. Tandis que la culture nous donne un conditionnement de vie, une manière de vivre. Dans une communauté, il y a un certain style de vie. C'est pas ce style de vie qui fait que tous sont intelligents. Non. Ce n'est pas parce qu'on est dominicain, qu'on est père jésuite, qu'on est intelligent. Non. Ce n'est pas parce qu'on fait partie de la communauté Saint-Jean qu'on est intelligent. Non. Mais il y a un style de vie. Le style de vie du lion de Juda, le style de vie de la communauté Saint-Jean, le style de vie des charismatiques. Il y a quelque chose de commun, le renouveau de l'Église. Il y a quelque chose de commun. Mais en même temps, c'est très divers. Vous voyez, c'est très curieux, ça, c'est très intéressant comme phénomène. Alors il faut comprendre que la philosophie aura un rayonnement sur la culture, c'est sûr. Mais ce qu'on peut communiquer de la philosophie, ce qui est le plus profond dans le philosophe, difficile de se communiquer ça. Il faut du temps avant de le communiquer. Il faut des amis pour qu'on puisse communiquer ce qu'on porte le plus profondément dans son intelligence. La philosophie est donc une qualité personnelle du sage. La culture n'est pas au niveau de la sagesse. C'est peut-être ça qu'il faudra le mieux comprendre. La philosophie demande de devenir une sagesse qui nous dit ce qu'est la finalité de l'homme et quel est le bonheur de l'homme. La culture est au niveau de la communauté familiale. Il y a une culture familiale. Il y a une culture de tel pays, anglo-saxonne. C'est une culture particulière. Une culture latine, Italie, Espagne, France. Une culture germanique, différente encore. Et ainsi de suite, vous voyez. Vous n'allez pas dire, il y a une philosophie française. Non. Il y a une philosophie tout court. Ça regarde l'homme et la finalité de l'homme. C'est sûr, ces philosophies sont influencées par la culture, ça c'est bien évident. Mais la philosophie prétend atteindre l'universalité. Toucher des principes. Elle part de l'expérience, donc de ce qu'il y a de plus individuel, et elle aboutit à la saisie des principes propres. Les principes propres de l'éthique, les principes propres du travail et de l'activité artistique, des principes propres de ce que représente l'être en mouvement, en devenir, l'être vivant, l'être tout court. Elle cherche le principe propre. Et le principe est universel. Mais la philosophie est plus universelle que la culture. La culture est beaucoup plus enracinée. Il y a une culture du XVIIe siècle qui n'est plus tout à fait la nôtre. Si on avait pris au magnétophone les sermons de Bossuet, et que maintenant on entend un prédicateur, on dit mais quoi, il y a Bossuet, c'est lent comme rythme. Aujourd'hui, quatrième vitesse. Il y a un phénomène de rapidité qui caractérise notre culture. Ça c'est sûr. Parce qu'on se met au rythme du TGV, que voulez-vous. Ça influe, on ne peut pas dire. Ça influe les vaches qui regardent le TGV passer. Et ça influe les personnes qui voient le TGV. Parce qu'on fait beaucoup plus de choses en moins de temps. Il faut le faire vite. La question du temps joue énormément aujourd'hui. Vous avez parlé du retard de la philosophie à l'égard de la science. Quelle est la cause de ce retard? Qu'est-ce qui permettrait un renouveau philosophique? Oui, c'est un fait. Je constate que la science, dans notre 20e siècle, et je crois que ce sera le regard sur le 20e siècle, a progressé avec une intensité énorme. Science biologique, parce que celle-là, elle touche tout de suite à la culture, avec la technique. C'est évident que le jour où l'homme prétend pouvoir réaliser une fécondation artificielle, in vitro, le jour où l'homme prétend pouvoir arrêter la vie, au moment où il juge bon, l'euthanasie, le jour où l'homme est victorieux d'une grande idée de maladie, et que beaucoup plus d'enfants demeurent en vie qu'avant, ça change beaucoup. Il y a des quantités de conséquences au point de vue de la culture, des quantités de conséquences. Ce serait intéressant de les énumérer, ouais, de bien les analyser sociologiquement. Et on verrait alors combien, de fait, notre siècle. Regardez l'aviation. C'est dans ce siècle-ci les premiers petits. Et actuellement, ils font l'aviation parce que c'est peut-être l'exemple le plus typique du progrès de la science et de la technique. Et ce qui modifie sans doute le plus la culture, je crois. On a des visions aériennes. Et puis il n'y a pas que ça. Ça modifie le rythme de vie de quelqu'un. Quand on regarde des pilotes qui sont habitués à cela, il y a quelque chose en eux, ils le disent, qui s'est modifié. Alors, c'est pas étonnant que la science et la technique ont un rythme très rapide. Le rythme de la philosophie est toujours le rythme de l'homme. Je ne peux pas aller plus vite. C'est pour ça que ça met du temps. On se dit, oh mais comme je suis lent à comprendre la philosophie, mais c'est pas étonnant. Vous iriez beaucoup plus vite en science, c'est sûr. Il n'y a pas d'ordinateur pour la philosophie. Les philosophes se méfient de l'ordinateur. Il se méfie parce qu'il a peur qu'il y ait un équilibre différent qui se fait, qu'il y ait des choses qui échappent. On comprend très bien cette espèce de peur qu'il y a. La philosophe a toujours un peu peur du progrès très intense de la technique qui met un primat à l'efficacité. Elle dit attention, attention. Le philosophe, le vrai philosophe, tout le temps maintient la finalité au-delà de l'efficacité. Tandis que la technique, c'est l'efficacité. Et l'efficacité, quelquefois, devient telle qu'elle met comme un manteau sur la finalité. On ne voit plus. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. C'est le propre de la science d'aller très vite. Elle n'est pas au rythme de l'homme. Elle dépend de certaines sciences, pas les mathématiques, mais les mathématiques ont encore souhait d'être liées à l'homme, mais pas à la finalité. C'est-à-dire à l'imaginaire de l'homme, donc au calcul. Et si on permet de calculer beaucoup plus vite, la mathématique peut aller beaucoup plus vite aussi. Pas dans ses intuitions, mais dans ses applications. Et la science, toutes les sciences et toutes les techniques appliquées, alors ça va beaucoup plus vite, grâce à l'instrument. Et quand on regarde l'instrument, au début du siècle, on n'éprouvait pas tellement le besoin de faire une philosophie de l'instrument, de l'outil. Aujourd'hui, on sait que l'outil, c'est extraordinaire, comme importance. L'instrument, très important. Non seulement ça modifie l'homme, mais quelquefois ça le détermine. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait un retard de la philosophie à l'égard de la science. Oui, la femme de La Fontaine, la tortue et le lièvre. La tortue. Je dis pas que le philosophe c'est une tortue, mais c'est pour montrer que le rythme est beaucoup plus lent parce qu'il est humain. Je peux pas aller plus vite, j'assimile. Je dois assimiler. Et par le fait même, il y a le prestige de la science qui fait des prodiges. Qui ne fait pas des miracles, mais des prodiges. Les prodiges relèvent de la technique et de la science et des instruments extrêmement perfectionnés. On fait des choses étonnantes. Qu'est-ce qui permettrait le renouveau philosophique? Ce qui permettrait le renouveau philosophique, c'est, je crois, l'homme qui va avoir peur et qui commence à avoir peur en disant on va trop vite, on ne sait plus où on va. Qu'est-ce qui arrivera? Alors, vous savez bien, la crainte est toujours le point de départ de la sagesse. Et je crois qu'on touche actuellement une de ces craintes. Les hommes commencent à avoir peur. Est-ce qu'on n'est pas en train, voyez, de détruire l'homme? Ce que je vous disais ce matin, situation limite du travail. Est-ce qu'on coopère encore avec la matière ou est-ce qu'on exploite la matière? Tous les produits chimiques pour que, de fait, l'agriculteur puisse produire avec une intensité beaucoup plus grande. Est-ce qu'on n'est pas en train de détruire le capital terrestre de la Terre? C'était il y a quelques années, j'arrivais dans la ville de Tours, je me souviens, allant au Carmel, je crois qu'il était minuit. Je ne savais pas où ça se trouvait, il n'y a plus personne. Tout le monde était... J'ai rencontré quelqu'un qui était en vélo, je l'ai arrêté. C'était un apiculteur merveilleux. On a bavardé ensemble. Alors quand il m'a quitté, il m'a dit, père, priez pour moi qui suis un pauvre pêcheur et pour mes abeilles qui sont en train de mourir à cause de tous ces produits chimiques qu'on met partout. Alors je me suis souvenu, prier pour les abeilles et pour l'apiculteur aussi, mais les abeilles, ça m'a touché le cœur, hein, c'est évident. Alors vous voyez, la crainte fait que l'homme commence à réfléchir et veut redécouvrir la finalité de l'homme. Pourquoi tant de suicides? Pourquoi tant de désespoir? Pourquoi tant d'angoisse? Tout ça, ça provient de quoi? Parce qu'on ne sait plus quelle est la finalité de l'homme. Un homme qui n'a pas de finalité, c'est un errant. Et il ne peut plus réfléchir. Il est angoissé, très vite. Et quand on est angoissé, on ne réfléchit plus. On se laisse prendre à n'importe quelle séduction. Parce qu'on espère que ça va nous sauver. Alors je crois que cette peur qu'on a aujourd'hui, qui commence à grandir, va permettre à l'homme de réfléchir. Tous les jeunes d'aujourd'hui ont soif d'absolu. Et où le trouver? Comment se fait-il que le pape entraîne ces foules de jeunes? C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et typique de notre monde d'aujourd'hui. Parce que de fait, on a besoin de sagesse. On a besoin de savoir ce qui finalise l'homme, ce qui permet à l'homme. Permettre un renouveau philosophique, je crois, c'est ce souci d'apporter à tous ces jeunes quelque chose qui peut les aider. Par notre vie et aussi par notre enseignement. C'est la famine, voyez, du côté de l'intelligence et du cœur. Qui oblige l'homme de réfléchir. Vous avez dit que l'expérience était le point de départ de la philosophie. Mais qu'est-ce que l'expérience? Y a-t-il des expériences négatives? Le péché, l'échec, oui. Comment sont-elles prises en compte par la philosophe, par le philosophe? Y a-t-il une connaissance de la réalité telle qu'elle est? Bon. Difficile, hein, d'expérier. À Fribourg, j'ai fait une fois un cours pendant toute l'année sur expérience et intuition. Ça m'intéressait beaucoup. Expérience et intuition. C'est très intéressant. Alors, l'expérience, on en fait tous les jours. Si on veut bien, parce qu'on peut aussi ne plus faire d'expérience du tout. Et alors on commence à se fatiguer. Celui qui ne se fatigue jamais, c'est celui qui vit d'expérience. C'est un discret que je vous dis, hein, pour ne pas vous fatiguer. Hein. C'est quand même important de ne pas se fatiguer. Bien, quand l'homme n'a plus d'expérience, il se fatigue. Vous savez bien, tous les jours le même trajet. Tous les jours, cette quantité de voitures qui sont là et qui m'empêchent d'aller à mon travail le plus rapidement fait. Je mets 3 heures, 3 fois plus de temps. Si on a découvert à ce moment-là, il y a des possibilités d'écouter des cassettes pendant ce temps-là. Il y a possibilité de prier pendant ce temps-là. Ah tiens, oui, alors c'est très bien. J'ai tous les jours une demi-heure de plus où je suis seul. Pas agacé par les gens, je suis seul. Dans ma voiture. J'écoute. Ça change tout, l'expérience. Parce qu'avant, affolant. Pas d'expérience, on perd du temps. Et quand vous faites le même trajet tous les jours, sans y penser, vous perdez du temps. Parce que vous fatiguez. Vous voyez, c'est la source qui nous renouvelle, c'est l'expérience. Je suis persuadé que des quantités de codes folie proviennent de là. On décolle. On n'a plus l'expérience simple qui nous rafraîchit. C'est très rafraîchissant, l'expérience. C'est merveilleux de pouvoir tous les jours reprendre une expérience simple. Être con. conscient qu'on est un être complexe, qu'on a des sens, qu'on touche une table. Il y a des gens qui n'ont plus conscience de ça, qui marchent pieds nus. Ils n'ont même plus conscience qu'ils marchent pieds nus. C'est quand même important. Entre le pied, la plante du pied, qui est quand même très sensible, ordinairement, quoi. Et puis le sol, s'il est humide ou chaud, s'il est froid, on ne le sent plus. Il y a un petit coton entre deux. Et le coton grandit, et puis au bout d'un certain temps, on est enveloppé d'un coton. On ne sait plus si c'est plus nous qui marchons. On marche machinalement. On ne sait plus du tout où on est. On ne regarde personne. Oh non, non, non. Personne ne m'intéresse. Plus rien du tout ne m'intéresse. Il n'y a plus d'expérience. L'humanité perd l'expérience aujourd'hui. Il y a trop de bien-être. Alors elle perd son expérience. Elle est dans le coton. Alors elle perd l'expérience de celui qui veut à tout prix arriver. Alors l'expérience, qu'est-ce que c'est? C'est typiquement humain, l'expérience. L'animal ne fait pas d'expérience. Quand la vache broute, elle ne dit pas en elle-même « Comme c'est bon l'herbe que je prends. Ça deviendra du bon lait pour mes chers maîtres. » Elle ne dit jamais ça, la vache. Jamais. Vous la remontez toute la journée, ça recommence. Sans aucune expérience. Sans aucune expérience. Et quelquefois, on dit à vache, voyez, comme ça, sans aucune expérience, continue. Un jour, on chasse l'autre, on continue, continue. Alors, l'expérience, c'est l'intelligence présente à travers mon affectivité, à travers mon imagination, à travers mes sens, à travers mes passions, à travers la réalité que je touche. C'est l'intelligence qui se sert de mes sens, de mon imagination, de mon affectivité, pour être en contact avec ce qui est. C'est ce désir profond de toucher l'autre. C'est pour ça que ça nous rajeunit, toucher l'autre, de découvrir l'autre. C'est l'expérience qui me permet de découvrir l'autre. L'autre, c'est le mur sur lequel je m'appuie. L'autre, c'est la chaise sur laquelle je me sied. L'autre, c'est le visage de l'autre qui est en face de moi. Visage agréable, visage bête, visage... Vous savez, quand vous êtes dans le métro à 11h30 du soir, hein, voyez l'autre. La vieille sorcière qui monte. Hein. Ça arrive, ça. Qu'est-ce qu'elle va encore raconter? Elle dans son coin, elle dit des histoires. Vous essayez d'écouter, ça n'a aucun sens. La vieille sorcière. Puis il y en a d'autres qui montent. Faut de temps en temps tâter le bout de Paris par là. Métro, le dernier métro. Qui ramasse tout. Alors, faut faire attention, hein, je sais pas, n'importe qui peut faire ça, mais on peut le faire de temps en temps quand on peut le faire. On tâte le bout. D'une culture, d'une civilisation, d'une fatigue. Je connais comme ça un peintre qui, lui, peint dans les salles d'attente des gares, surtout la nuit. C'est très curieux. Il y a des lieux comme ça. On saisit ce que c'est que l'humanité. L'autre, saisir l'autre dans ce qu'il a de tout à fait particulier. On doit essayer de comprendre. L'expérience, elle est tout le temps variée. Chaque jour, ça change. Parce que l'expérience, c'est l'instant présent. C'est pour ça que ça rectifie. C'est pas le vécu. Le vécu, c'est le passé. C'est pas le futur. C'est pas encore ça. C'est l'instant présent. Et c'est l'instant présent qui est justement la garantie de mon expérience. De mon jugement d'existence, ceci est. suis présent à cela. Et je suis attentif à cela. Et j'essaie d'être réceptif. Si je ne suis pas réceptif, il n'y a pas d'expérience. Il y a des jours où, étant fatigué, je ne suis pas réceptif. Alors on a passé la matinée dans le coton. C'était moite. L'expérience exige de nous d'être éveillés. Et quand on est éveillé par rapport à l'autre, on se fatigue beaucoup moins. Je dis pas qu'il n'y a plus de fatigue du tout, on n'a pas besoin d'aller de s'endormir parce que... Non, on peut être fatigué parce qu'on a fait grande attention toute la journée. Alors on a besoin de dormir, mais alors on dort. Mais il vaut mieux dormir et être éveillé que de passer toute sa vie entre les deux. Le philosophe peut dire comme à la suite de Dieu qui dit « Les tièdes, je les vomirai. Ceux qui ne sont ni éveillés, ni qui dorment, ceux-là ne sont pas philosophes. » Et l'humanité, on essaie de l'endormir. On essaie de l'endormir par tous les moyens. Pour être des fantômes. Curieux, ça. Comme l'humanité d'aujourd'hui perd le sens de l'expérience. Parce que l'expérience... Je l'expérimente. Oui. C'est vrai, un homme d'expérience sait très bien ce que c'est que l'expérience. C'est tout lui-même. L'intuition, vous voyez, ne porte pas sur le réel, mais sur une relation qui pourrait exister. Tout à fait différent. L'intuition éveille momentanément, mais ne maintient pas éveillé. Tandis que l'expérience, oui. Alors, il y a des expériences négatives, c'est sûr. L'orgueil. L'orgueil. Vous voyez, quand on s'exalte, c'est pas l'instant présent, hein. C'est uniquement du vécu intérieur. C'est plus l'expérience. Oui, quand la petite fille aime la confiture et derrière le dos de sa mère, dès qu'elle est partie, elle va dénicher la confiture, elle fait une expérience. Elle aime la confiture. Il fait une expérience négative intérieurement parce que c'est défendu. Alors la confiture n'a plus tout à fait le même goût. Parce que c'est défendu. Alors elle la mange très très vite. Elle ne peut pas la savourer. C'est pour ça qu'elle n'a pas le même goût. Vous voyez, comme c'est très curieux, la véritable expérience est positive. Les expériences négatives, on y passe très vite, tout le temps. Sauf celui qui alors s'exalte dans son orgueil. Mais s'exalter dans son orgueil, c'est vivre du vécu, c'est pas une véritable expérience. L'expérience de la réalité extérieure, c'est le vécu. Et le vécu n'est pas l'expérience. C'est la mémoire de la chose. C'est la même chose pour l'échec. Hein. L'échec aussi est un vécu. Un accident de voiture, c'est un échec. Regardez comment vous le vivez. On vit surtout les répercussions. Surtout quand on a été blessé. On vit des répercussions. Le choc lui-même, pas très bien. Pas du tout l'exemple d'une expérience pleinement vécue. Tandis qu'au contraire, dans l'amitié, vous retrouvez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Oh, merveille, c'est extraordinaire. Et on lui serre la main avec force. Et ça, c'est l'instant présent, c'est l'expérience. Et on voudrait que cette expérience continue. Que le temps soit suspendu. Jamais dans l'échec. Pas envie du tout de pleurer. Le choc accidentel d'une voiture sur une autre voiture. Pas du tout. Ça passe le plus vite possible. Et on a une faculté énorme de le laisser tomber. Et ça reste dans la mémoire après. Parce qu'on ne l'a pas assimilé. On n'assimile pas un échec. On n'assimile pas un péché. Une expérience demande d'être assimilée. Ça, c'est des expériences qui ne sont pas de vraies expériences. C'est curieux. Dans toute faute, il y a une évasion. Tout le temps. Toujours. Oui, on va continuer tout à l'heure, parce que...